sac à munitions.
On fait demi-tour?
Non, il n'y a pas le temps.
Bon, il y a un mystère, je vous éclaircis.
Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence.
Dans 2 minutes, elle va devenir une... Une zombie, pas un vélociraptor.
Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle.
Au congélo.
Pas besoin de vous faire un dessin.
Salut Fabrice.
Salut Laurent. Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Vous êtes sur l'autre radio en ce beau mois de février.
En ce beau mois de février neigeux.
Donc vous écoutez Le Masque et la Tronçonneuse sur le 107.9 à Château-Gontier et le
101.7
à Laval. Ouais, bah bravo. Voilà.
Dans le reste de la France aussi, ouais.
Dans le reste de la France, c'est www.l'autreradio.fr. Voilà. Et comme ça, vous pouvez l'écouter dans le monde entier. C'est super.
Partout, il y a une connexion Internet, en tout cas.
C'est ça.
Et nous allons parler en ce beau mois de février de films d'amour.
Oui, sur une idée du programmateur de Monsieur Joël.
Oui, parce que... Nous, on n'était pas partis là-dessus, effectivement.
Non, pas du tout.
Il nous a rappelé qu'en ce mois de février, c'était le mois de la Saint-Valentin.
Et comme c'est la saison des bisous. Voilà.
Des bisous avec le coude.
Avec le coude, voilà. Donc on va parler
vrai,
des...
C'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça.
À quoi?
La Saint-Valentin, en période de Covid, personne n'y a jamais pensé.
Ouais, mais normalement...
L'année dernière, on n'était pas confiné encore le 14 février.
Non, non, non. Mais perso, je suis plus embêté par la Saint-Patrick confinée que la Saint-Valentin confinée.
Voilà, madame appréciera.
Mais non, mais madame, les gestes barrières avec madame, ils sont normalement...
Quoi?
Ah bon? Mais... Ah mince, il faut aussi...
Comment ça? Bon, en tout cas, on a décidé de se pencher sur la thématique des films d'amour, qu'on peut appeler aussi les films sentimentaux.
Oui,
que, moi c'est... jargon de cinéphile, on appelle les films à l'eau de rose.
Oui, mais aussi, ça peut être aussi de belles histoires d'amour dans des films qui ne sont pas forcément des films d'amour.
Et oui, c'est vrai.
Ce qui est mon cas, par rapport à ma sélection. Voilà.
D'accord. Bah, j'ai hésité, moi, à mettre des films effectivement de cet acabit-là, puisque j'ai vu récemment Retour à Zombieland, où il y a un peu d'amour dedans, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup trop de zombies, en fait, pour que ça puisse faire le taf. Donc, je me suis penché sur 2 autres films. Je me suis penché, moi, de mon côté, sur un film qui m'a bien donné le sourire. C'est Happiness Therapy. Alors, je dis ça gentiment, mais ce n'est pas trop mon acabit, les films sentimentaux à l'eau de rose. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et l'autre, puisqu'on parle d'amour, j'ai cherché un petit peu. Et je me suis mis l'amour-passion et un film qui parle d'amour et de passion, Alabama Monroe.
Oui.
Voilà, donc c'est les 2 films dont je souhaitais partager l'engouement que j'ai pu avoir lors de ma vision dans ce qu'on appelait autrefois, mais peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappellent pas, ce qu'on appelait les cinémas, qui étaient dans des lieux où on pouvait se rassembler à plusieurs sans tenir compte des gestes barrières devant un grand mur blanc sur lequel étaient projetées des images animées.
Avec des gens qu'on ne connaissait pas et on payait pour voir les films.
C'est ça.
Voilà. En mangeant du pop-corn, en étant dérangé par le bruit du voisin. Voilà.
C'est
ça qui était bien, être dérangé par le bruit du voisin aussi.
On pouvait toucher à plusieurs dans le même truc à main nue, sans se désinfecter les mains avant.
Ouais.
C'était une autre époque.
Ça paraît étrange, quand même.
Oui, une époque inconsciente.
Ouais. Oh les godins. Et moi, j'ai... Pardon. Moi, j'ai deux, peut-être 3 films, suivant le temps qu'on a. Moi, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui m'a beaucoup plu. Et puis un autre film qui m'a énormément plu, c'est True Romance, voilà, qui est un film qui est un échec commercial, mais qui a gagné ses galons un peu plus tard, voilà, et dont on parlera tout à l'heure, voilà.
Très bien.
Et par quoi veux-tu commencer ?
Sous le coude ?
Le troisième film que j'ai sous le coude, c'est pas une histoire d'amour au sens propre, quoique, c'est une belle histoire d'amour, d'amitié, c'est Thelma et Louise. Ridley Scott qui est réalisé par Ridley Scott en 80, et qui est sorti en 91. Et Ridley Scott a été capable de films extraordinaires et de films vraiment beaucoup moins réussis. Et je pense que Thelma et Louise est assez peu quand même. Et je pense que Thelma et Louise, c'est sans doute un de ses meilleurs. Voilà. Tout à fait.
Quand tu parles d'amitié, enfin, on en parlera. J'ai un avis tranché sur la question.
Bon. Bah, on va trancher alors.
On tranche ? Allez, Thelma et Louise, on parle de Thelma et Louise. Tu m'as lancé.
Donc, on va commencer par le film qui était là pour boucher boucher le trou, pour remplir à la fin s'il y avait besoin. Mais c'est pas grave. Donc, Thelma et Louise, c'est un film qui a été réalisé par Ridley Scott, hein, avec un casting assez terrible, puisqu'il y a Suzanne Sarandon, Gina Davis, Michael Madsen, Brad Pitt, qui joue le rôle d'un autostoppeur très particulier, et puis Harvey Keitel, qui est le policier chargé d'arrêter ces deux femmes.
Et oui, peut-être parler du film.
Parce que l'histoire, c'est l'histoire de Thelma et Louise, qui sont deux amis très, très proches, et qui sont... Qui ont une vie tout à fait lambda, tout à fait banale, et qui un week-end se décident à partir tous les deux pour un road trip au volant d'un cabriolet. Et puis le premier soir, bah, tout bascule parce qu'il y a Thelma qui subit une agression sexuelle, et Louise la sauve en butant son violeur, je crois. Et donc, à partir de là, ils partent en cavale à travers l'état de l'Arkansas. Voilà. Et ce film a fait polémique à l'époque parce que, tout simplement parce que des femmes se comportent comme des hommes dans le film, et ça choque en fait. Mais ça choque pas quand c'est des bonhommes. Et donc, le film aussi, il a une fin magnifique. Là, on peut spoiler, hein, ça fait 30 ans.
Il a 30 ans aujourd'hui, oui.
Il a 30 ans, il a 30 ans cette année, ouais. Et donc, les filles vont fuir, coursées par la police. Elles vont tomber sur des personnes plus ou moins recommandables. Et elles vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à la fin, elles se retrouvent coincées au bord d'une falaise et elles vont prendre la voiture et foncer dans le ravin. Voilà. Et le film est très bien réalisé. C'est le casting impeccable entre Suzanne Sarandon et Gina Davis, ça fonctionne très très bien. Voilà. Le film a été accusé d'encourager la violence. Moi, c'est pas comme ça que j'avais ressenti déjà à l'époque. Voilà. C'est plus deux filles qui refusent de se faire emmerder, quoi. Voilà. Et on va essayer de les arrêter pour leur comprendre qu'elles, comme c'est des femmes, elles doivent se faire emmerder. Voilà. Je sais pas ce que tu en avais pensé, toi, par rapport à ça.
Bah, moi, ce que j'en avais pensé à l'époque, c'était quand même qu'il y avait de l'amour là-dedans, parce que même si c'est une très forte amitié, on peut quand même supposer qu'il y a une relation amoureuse entre ces deux femmes, puisqu'elles meurent ensemble quand même, ce qui n'est pas rien. Et puis bref, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement déroutant au départ, parce que, comme tu le dis si bien, on n'avait pas l'habitude de voir des femmes, enfin, en tout cas, ce type d'héroïne, plutôt, incarnée à l'écran. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui vont effectivement partir dans un road trip qui est une fuite en avant, en fait, jusqu'à leur mort. Et ce type de rôle était plutôt incarné par des hommes à l'écran. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, le principe du fugitif qui est un petit peu innocent, parce que même si elles ont tué un violeur, elles restent quand même un petit peu victimes, finalement, de situation très patriarcale. Moi, à l'époque, c'est un film qui m'avait dérouté. Après, Ridley Scott, c'est un très bon réalisateur. À l'époque, il ne nous avait pas encore assommé avec des navets comme Alien Covenant et puis le précédent, Prometheus, qui sont quand même, moi, les deux films qui m'ont surpris de la part de Scott. Ce qui est sûr, c'est que c'était un bon choix de prendre Ridley Scott, même si le scénariste, à l'époque, avait plutôt préféré un autre réalisateur. Il y a eu des noms comme Brian De Palma, Carpenter, Sidney Lumet qui avaient été avancés pour cette réalisation-là. Bon, c'est bien qu'on ait finalement, Ridley Scott à la caméra, ça passe très bien.
Ouais, puis Ridley Scott, pour moi, c'est la fin. Thelma et Louise marque la fin d'une partie de sa carrière. Après, il y aura comme un creux de presque 10 ans où il va réaliser notamment L'âme de fond, qui est pas si mal que ça, mais qui a pas le calibre de ses précédentes réalisations. Il aurait aussi réalisé G.I. Jane avec Armégal, je crois, avec Demi Moore.
Avec Demi Moore, oui.
Qui est franchement indispensable. Et il aura une traversée du désert, mais il aura vraiment un creux dans sa carrière jusqu'à Gladiator 10 ans plus tard. Et
qui est son grand retour, hein.
Enfin, qui est son grand retour, c'est son très grand retour, parce qu'il enchaînera Gladiator et puis La Chute du Faucon Noir dans la foulée. Mais Thelma et Louise restent à part parce que c'est, pour moi, c'est le fait que ce soit deux femmes, les héroïnes, fait que le film est particulier. Alors que si on met deux hommes, le début du film est très sympa, c'est deux copines qui partent en week-end, et puis après ça se dégrade avec l'histoire de l'agression dans le bar, plus l'histoire de l'autostoppeur avec Brad Pitt. Les filles vont partir, mais ce serait un film avec des hommes. En fait, ça se terminerait, ils buteraient sans doute tout le monde, et puis la voiture partirait au coucher de soleil et terminé, quoi. Là, le film est logique dans son déroulement, c'est que les filles soit rentrent dans le rang, soit elles sont obligées de crever, quoi. Et c'est ce qui se passe, en fait. Voilà.
Alors, c'est vrai que c'est un film plutôt féministe, hein, moi je suis assez d'accord avec toi. La mort des deux filles, c'est à la demande de Geena Davis. C'est elle qui a demandé à ce que la fin soit réécrite comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'initialement, elle ne devait pas mourir. Elle devait justement se sauver à la dernière minute. L'une devait pousser l'autre de la voiture au dernier moment, en fait. Et c'est Geena Davis qui a demandé à ce que le film soit réécrit avec la mort des deux femmes. Ce qui est finalement assez cohérent par rapport à tout le déroulé. C'est vraiment la fuite en avant jusqu'au bout.
Sachant qu'on ne les voit pas mourir, on voit juste la voiture qui décolle et le film s'arrête là. Voilà.
Mais elle meurt. Bon,
l'issue ne fait pas de doute. Voilà.
Aucun doute.
Si les lois de Newton s'appliquent dans cet environnement, logiquement, elles ne s'en sortent pas. Mais on ne les voit pas mourir. Voilà. Le film s'arrête à ce moment-là. Voilà. Dans un plan magnifique d'ailleurs, c'est...
Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, initialement, la petite anecdote aussi du film, c'est que, à l'origine, c'était Holly Hunter et Frances McDormand qui devaient incarner le duo. Puis, on est passé à Michelle Pfeiffer et Jodie Foster, mais qui ont renoncé parce que la post-production était beaucoup trop longue. Et finalement, c'était Meryl Streep et Goldie Hawn qui devaient avoir le rôle. Et c'est Meryl Streep qui voulait que les deux femmes survivent. Voilà. Et donc, c'est quand on a eu Geena Davis et Goldie Hawn que la fin a été réécrite, enfin la fin qu'on connaît a été réécrite. C'est rigolo de voir comment ces actrices-là aussi peuvent vraiment incarner leur personnage avec leurs propres convictions. Très bon film.
Oui.
Voilà. Échec commercial, mais très bon film.
Très bon film, ouais. Et en plus, c'est vraiment, ce sont deux personnages assez banals, en fait. C'est deux personnes assez banales. C'est pas des héroïnes. C'est un peu comme dans Alien, en fait, par rapport au personnage de Ripley. C'est pas celle qu'on attendait, en fait. Et c'est ce qui rend le film très, très, très touchant, en fait. Et vraiment, l'histoire d'amitié, elles vont aller jusqu'au bout ensemble. Voilà. Donc voilà, Thelma et Louise, que moi je recommande vraiment.
Oui, qui est disponible sur une chaîne de VOD bien connue.
Laquelle ?
Sur Netflix, on peut le voir.
Sur Netflix, ouais.
Je crois qu'il est disponible sur Netflix. Ben écoutez, merci bien pour ce petit aparté du côté du film qu'on n'attendait pas. Moi, je te propose de faire un petit tour du côté de Happiness Therapy.
Que je n'ai pas vu.
Que tu n'as pas vu.
Avec
Bradley
Jennifer
Cooper
Lawrence.
Et Jennifer Lawrence, tout à fait. Donc, un film de 2012. Donc, qui a 8 ans, en fait, déjà. Alors, un film qui est dont le postulat est assez simple, hein, puisque c'est. Alors, quand je dis le postulat est assez simple, c'est un film en fait qui parle d'un personnage incarné par Bradley Cooper qui s'appelle Pat, qui sort d'une grave dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire en fait. Et il a tout perdu. Il a perdu sa maison, son travail, sa femme, ses amis, enfin, son chien, sa voiture. Et il se retrouve dans l'obligation d'emménager chez ses parents, ce qui est toujours un petit peu problématique quand on a connu l'indépendance. Et il va essayer de faire preuve, enfin, en tout cas, de s'obliger à être tout le temps optimiste, en fait. Et avec la ferme intention de renouer les liens avec son ex-femme. Et puis, il va croiser le chemin d'une jeune femme qui s'appelle Tiffany, incarnée par Jennifer Lawrence, qui va lui proposer son aide, en fait, dans cette reconquête de sa femme, à condition que lui puisse lui rendre un service en retour. C'est en fait un donnant-donnant, quoi, don contre don. Et en fait, le lien va commencer à se créer entre eux et finalement, ils vont se rendre compte que à reprendre leur vie respective en main, c'est bien, mais en fait, ça va dépasser leur propre intention, en fait. C'est-à-dire que derrière, il y a des sentiments très, très complexes qui vont se mettre en œuvre. Et est-ce qu'on spoil ou pas?
Spoil? Divulgage.
En divulgage? Eh bien, en fait, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à la fin, ils ne finissent pas ensemble. C'est un gros divulgachage, ça.
Oui, mais moi, je ne vais pas te compléter ça, parce que je ne l'ai pas vu.
C'est un film qui est plein de bons sentiments, réellement. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Dans le sens où... alors moi, j'aborde toujours ce type de film avec beaucoup, beaucoup de précautions, parce que, encore une fois, le sentimentalisme un petit peu, comment dirais-je, débordant peut, au cinéma en tout cas, vite m'agacer. Pour autant, celui-ci, j'ai pas vu le temps passer en le voyant, ce qui est assez rare. Et puis, y a plein de moments vraiment tendres, vraiment inspirés. J'ai pas cité d'ailleurs j'ai pas cité le réalisateur. Le réalisateur, c'est David Roussel, à qui on doit notamment les Rois du désert. Donc, c'est pas du tout son. Ou on doit aussi American Bluff.
Ils sont plutôt. C'est plutôt pas mal, quand même.
Oui. Plutôt des bons films, mais pas des films sentimentaux à la base. Bon. Et puis, il y a ce ton très léger qui lui confère vraiment ce qu'on. Alors, pour le coup, vraiment le qualificatif de comédie romantique. Voilà. J'aime bien ce mot-là, par contre, comédie romantique, parce que il y a quand même quelque chose qui reste amusant dans le propos. Voilà. C'est pas juste des larmes et des Kleenex. Je vous garde ça pour après. Mais voilà, je peux que trop conseiller de le voir. C'est un très beau film, très sympa.
Jennifer Lawrence a eu l'Oscar pour ce film, d'ailleurs.
Ouais, il y a un très bon casting, c'est bien de le dire. Il y a Robert De Niro aussi dans le casting, il y a Chris Tucker. Voilà. Bon, il y a des acteurs qu'on peut aimer retrouver. Il y a John Ortiz aussi, qui est souvent dans les seconds rôles.
Bon. Après Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, par rapport à ce rôle, elle a eu un peu un syndrome, je trouve, de l'actrice qui a eu l'Oscar dans ses films suivants. Voilà.
Ouais.
Et un peu comme Alberi à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'elle avait eu l'Oscar. Et c'est pas forcément un compliment. Voilà. C'est une actrice que j'aime pas mal, j'aime beaucoup, mais on sentait qu'elle se un peu dans ses films suivants, c'était pousse-toi de là que je m'y mette un petit peu. J'ai eu l'Oscar. Mais voilà.
Alors, c'est rigolo parce que parmi les anecdotes du film, il y a notamment le fait que le personnage de Tiffany devait être plutôt gothique et Jennifer Lawrence devait se teindre les cheveux en noir en faisant des séances, des tests de maquillage gothique, épais. Et il y en a un qui a désapprouvé, en fait, et c'est Weinstein. Je me dis, celui-là, il est bon partout. Parce qu'à l'époque, ouais. Elle était jeune, elle avait 22 ans, Jennifer Lawrence.
Donc, oui. Voilà. Oui, puis elle avait déjà.
Elle était presque trop vieille pour Weinstein, mais.
Oui, mais elle avait déjà quelques films comme.
Oui. Bon, on l'avait vu dans Hunger Games, notamment.
Enfin, Hunger Games, et puis la relance de la franchise X-Men.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais. Celle qui fait.
Bon, après, Mystique. Elle a été blindée de titres, hein, Jennifer Lawrence, pour ce film. Elle a eu aussi l'Austin Film Critics Award, elle a eu un Southwest Film Critics Association Award, un prix à Kansas City aussi, des critiques, à l'Utah, au Nevada, à Houston, enfin bref. Elle a enchaîné pas mal d'Oscars. Elle a eu le BAFTA aussi pour ce rôle-là. Voilà.
Ok.
Elle a été obligée de perdre du poids pour ce film aussi. Pour le rôle. Bon.
C'est Harvey qui voulait.
Voilà. C'est donc un film, ouais, qui. Voilà. Je me répète, hein, je redis les choses, mais je vous invite fortement à le voir.
Ok.
Ce qui est rare, hein. Il faut le noter d'une pierre blanche, hein, quand je dis ça d'un film d'amour.
Oui.
Je te propose une petite pause musicale.
Ouais, on peut faire une petite pause. Est-ce que notre est-ce que notre DJ nous entend?
Il a l'air.
Il a l'air. Bon. Et après on parlera de. Ah.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème.
Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même.
Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne.
C'est la chance ou bien c'est de la folie.
Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux.
Je sens bien que je t'aime.
Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes.
C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime.
J'ai un problème, j'en ai bien peur. On y gagne quand même.
Et puis après tout, on n'a pas choisi.
Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble.
Mais ça s'arrête des fois ou...
Et bien avec Johnny, c'est quand ça s'arrête en fait.
Ouais. Oui.
Non ?
Eh bien, bienvenue dans le plus grand cabaret du monde. Avec... Oui. Non, pardon. C'est pas ça. Non.
Ça, c'est une bonne leçon. Ça veut bien nous dire que la prochaine fois, il faut qu'on prévoie la musique. Hein.
Je crois qu'il n'y a pas photo.
Mais bon. Merci, Joël.
Ouais, merci d'avoir tué nos oreilles et notre sens mélomane.
Ah oui, oui. Oui, parce que Johnny plus Sylvie Vartan. Hein.
Oh. Ah, ah, oui, ça pique. Hein.
J'ai juste eu le temps d'aller prendre un Doliprane, quoi. Voilà. Alors, si on parlait de trop romance,
Hiver, mais bon.
Si on parlait de trop romance,
ouais, ça va nous permettre de revenir un peu dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, ouais. Trop romance, c'est un film que j'adore. C'est un film réalisé par. Bah, on a parlé de Ridley Scott tout à l'heure, là, on va parler de son frère, Tony.
Décédé.
Alors, décédé en quelle année ? Je ne sais plus.
Il n'y a pas très longtemps, il s'est suicidé l'année dernière.
Il s'est suicidé, ouais. Il est mort en 2012.
Voilà, déjà.
Ouais. Ouais. Et donc, True Romance, c'est un film, je ne sais pas comment on pourrait dire, un thriller ?
Ah, on peut dire ça, oui.
Un thriller d'action et une romance. C'est, là, ce coup-ci, c'est Allociné qui le dit. Avec Christian Slater, Patricia Arquette. Et un casting plein de second rôles qui n'apparaissent des fois qu'une fraction de minute, hein, même pas de seconde. Hein. Comme Dennis Hopper qui joue le père du personnage joué par Christian Slater, Christopher Walken qui fait un parrain de la mafia, Brad Pitt qui fait un copain allongé, Gary Oldman qui fait un proxénète, Val Kilmer qui fait Elvis, mais dont on voit juste le bas du corps et la main. Samuel Jackson qui fait un mec de la police, je crois, un mec du FBI, comme Tom Sizemore, Chris Penn, Michael Rapaport, James Gandolfini, alors, qui a été après très connu pour la série Les Sopranos, qui est décédé aussi depuis, Christopher Walken. Et donc, le film a été écrit par Quentin Tarantino. A priori, il y aurait glissé pas mal de choses autobiographiques dedans, notamment un petit peu le personnage de Clarence, qui, s'il travaille dans un magasin de BD, peut faire penser à Quentin Tarantino quand il était jeune, parce qu'il bossait dans un magasin de location de vidéos. Voilà, donc c'est un film qui a eu un petit succès en cinéma, en salle, mais vraiment léger, et puis qui a vraiment... gagner ses galons de films, j'aime pas trop ce mot, mais culte, quelques années plus tard. Voilà. Et en fait, ça raconte l'histoire de Clarence, qui vit un peu tout seul, il n'a pas trop d'amis, il vit dans son magasin de BD, enfin voilà, et le jour de son anniversaire, il va au cinéma voir des films de karaté, là on voit aussi du Tarantino, et puis pendant la séance, il y a une fille qui arrive, qui s'appelle Alabama, et qui s'assoit à côté de lui et qui lui fait ça colle entre les deux. Ils vont après la séance aller manger ensemble et puis finalement ils vont passer la nuit ensemble et à la fin le lendemain Clarence apprend que Alabama c'est une prostituée qui a été payée par son patron pour son anniversaire en fait. Mais lui il l'entend pas, il tombe amoureux les deux et Clarence va se décider à fuir avec elle et à la libérer de son proxénète en fait. Voilà. Ça va mal se passer, ils vont se retrouver avec une valise de drogue sur les bras qu'ils vont essayer d'aller vendre à Hollywood et ils vont traverser un peu comme ça les États-Unis puisque je crois que le film commence à Détroit. Et voilà, donc le film va se terminer par un duel assez culte dans un salon entre le FBI et la mafia avec nos deux héros qui se retrouvent au milieu. Et voilà, moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est vraiment l'histoire entre les deux parce que ils sont très touchants. Sont des personnages un peu en marge en fait. Et ne serait-ce qu'à la Balma, quand on voit ses vêtements, c'est une cagole en fait. Si elle habite à Marseille avec l'accent du sud, ce serait une cagole avec des vêtements en peau de léopard, enfin tout ça. Mais Mais elle est terrible, en fait. Et les deux, ça fonctionne bien. Voilà. Et c'est pour ça, moi, j'ai trouvé que ce film, c'était une belle histoire d'amour entre les deux. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de...
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je trouve que le casting, encore une fois, que tu l'as dit, est hallucinant. Hein. Avoir Val Kilmer. Alors, il faut le remettre un peu dans le contexte, parce qu'à l'époque, Val Kilmer était quand même autrement plus en vogue qu'il ne l'est actuellement. Hein. On est en 93. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit. J'ai pas
c'est 93, ouais. Ouais.
Val Kilmer, en 93, c'était encore... encore un acteur qui tournait vachement. On l'a un peu moins vu ces derniers temps, mais en 93, il sort de l'affaire Karen McCoy, il va tourner Tombstone.
Il va tourner Batman, il va tourner aussi Le Saint. Enfin, c'est un acteur de premier plan. Il a tourné
Hit. De premier plan, ouais.
Et ce film se paye le luxe d'avoir Val Kilmer juste pour qu'on voit sa main, en fait. Voilà.
C'est ça.
Et il le fait bien d'ailleurs.
Ouais. Parce que là, Val Kilmer, c'est son actualité cinématographique de ces derniers temps. Bon, c'est pas ouf, quoi. Il va revenir dans le film de Top Gun, dans le deuxième film de Top Gun pour rejouer à Iceman.
Il a été malade aussi. Donc,
Oui. Bon.
Après, non, ça fait déjà un moment que sa carrière a quand même...
Non, ce que j'allais dire, on va pouvoir lui faire un petit mot pour dire qu'il était malade, mais... il y a quand même une chose qui est intéressante dans la carte de Val Kilmer, c'est qu'il vient de tourner l'année dernière dans Giant Silent Bob Reboot de Kevin Smith. Donc, en principe, quand on tourne dans un Giant Silent Bob de Kevin Smith, on revient sur le devant de la scène. C'est arrivé à Mark Hamill, hein, il a tourné dans un Jay and Silent Bob, et paf, on l'a revu sur les écrans. Donc, peut-être qu'il va revenir sur le devant de la scène grâce à Kevin Smith. Bon, c'est dommage. Mais c'est pas un mauvais acteur hein, en soi, mais oui, il a une carrière qui n'est pas extraordinaire ces derniers temps.
Non. Bon, Christian Slater non plus. Hein,
Oui, mais alors Christian Slater, il a... Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, réellement. Je pense qu'il a eu des impôts à payer à un moment donné parce qu'il a vraiment tourné dans des daubes. Je pense notamment le film M'échappe, un film par l'allemand là, qui a acheté toutes les...
Alone in the Dark.
Merci, Alone in the Dark, c'est ça.
Oui.
Voilà, bon. Il a eu une période, ouais, c'est pareil, il a eu les années 2000 ont été compliquées pour lui. Alors on l'a revu quand même dans Mister Robot, une excellente série entre 2015 et 2019. Il y a trois saisons. Alors il joue quand même dans Archer, hein, qui est une série animée qu'on peut voir sur Netflix que je ne saurais trop vous recommander. Peut-être qu'un jour on parlera des séries animées. Mais bon, le côté cinéma, c'est pas terrible. Hein.
Non. Il a tourné dans un de mes petits plaisirs coupables, Christian Slater, c'est Puits d'enfer.
Ah oui, très très bien, avec Morgan Freeman.
Avec Morgan Freeman, qui n'est pas un film extraordinaire, mais que c'est un film que j'aime beaucoup, parce que c'est un film que je regarde avec plaisir. Et c'est un film qui a coûté très très cher, parce que...
Extrêmement cher, oui.
Ils ont noyé vraiment la ville. Donc, voilà. Et puis en plus, Morgan Freeman joue un méchant, ce qui est comme... qui est une vraie crapule, ce qui est quand même assez rare. Voilà. Donc, le film est sympa.
Ouais. Donc, bon, après, ouais. Pour ce qui est du... revenons sur True Romance, moi, c'est un film qui, à l'époque, m'avait vraiment scotché, hein, clairement. Voilà. Et on avait, à l'époque, un Tarantino qui n'était pas encore hyper... Enfin, qui n'avait pas encore le l'aura qu'il a maintenant au scénario et je me souviens
qu'il a vendu ce scénario pour pouvoir tourner Réservoir Dog. Mmh. En fait, c'est cette période-là, 92, 93, 94, c'est la période vraiment où Tarantino a explosé, puisque il a dû tourner Réservoir Dog en 91 ou 92. Et Pulp Fiction est sorti en 94. Et entre-temps, il a vendu quelques scénarios, dont True Romance, que, voilà, et Tierney qu'il a désavoué, parce qu'il n'a pas aimé le film, je crois. Hein. Je crois, moi, c'est un film que j'aime bien aussi.
Ouais, j'aime bien.
Et voilà. Et il devait y avoir aussi des liens, parce qu'il y a des liens entre tous les films de Tarantino, tous les scénarios de Tarantino, en tout cas, parce que là, il n'a pas réalisé. Mais il devait avoir un lien entre True Romance et aussi Reservoir Dog. Voilà. Et juste pour la petite anecdote, il parle aussi de... Il y a des hamburgers, une chaîne de restaurants rapide qui est évoquée dans True Romance, qui est aussi évoquée dans Pulp Fiction. Voilà. Et puis, bah, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a Patricia Arquette dedans qui est...
Qui est une actrice, ouais. Moi, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie.
Ah oui, ouais. Ouais, elle a une filmographie qui est assez balèze quand même, dont True Romance. Moi, je l'ai découverte vraiment dans True Romance, mais comment elle a aussi tourné dans, à mon goût, un des meilleurs, un des David Lynch que j'affectionne beaucoup, c'est comment Lost Highway, où elle est magnifique. Elle a joué aussi dans Ed Wood, elle a joué aussi dans un film de Michel Gondry que j'aime beaucoup, c'est Human Nature.
Voilà. J'avais beaucoup aimé aussi dans Stigmata.
Oui, et dans un autre film de. Dans un film de Scorsese qui est pas son film le plus connu, mais c'est un film aussi pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, c'est À Tombeau Ouvert avec Nicolas Cage. Oui,
tout à fait.
Et Nicolas Cage qui est très bon aussi dans ce film-là. Et d'ailleurs, ils étaient en couple, je crois, à l'époque. Voilà. Donc
Dans un autre film aussi qu'on a beaucoup aimé tous les deux, c'est Rangoon de John Boorman.
Ah oui, Rangoon, oui, exactement. Rangoon où justement Boorman nous parle de comment de Aung San Suu Kyi et puis de la dictature birmane, quoi. Voilà. Donc c'est une très grande actrice qui a commencé presque dans Freddy 3.
Oui, elle a joué dans Indian Runner aussi.
Que je n'ai pas vu, et dans la version américaine du Veilleur de Nuit, avec Ewan McGregor. Voilà.
Et oui, dans Les Griffes de la Nuit, le troisième, tu as raison, elle a joué Kristen Parker. Ouais.
Ouais. Et c'est vraiment une actrice qui a une palette de jeux qui est très très large, et qui continue à tourner, même dans la série Medium, qui est une série plutôt sympa. Relativement, c'est du consomma, mais relativement sympa. Elle est très bien aussi.
Elle a joué aussi dans The Act, une autre série aussi. Voilà.
Ouais. Donc voilà, donc True Romance.
C'est The Act. Vous pouvez voir la série sur StarZ. C'est une série qui parle de du meurtre. D'un meurtre commandité par sa propre fille. C'est une bonne série.
Voilà.
Elle a reçu un prix, elle a reçu un Golden Globe.
Ouais, elle est beaucoup dans les séries, elle a beaucoup de séries. Alors, The Act, je ne sais pas, c'est une série qui est en une seule saison ou c'est.
Ah oui, il n'y a qu'une saison.
Il n'y a qu'une saison. D'accord.
Ouais. C'est une série qui fait 8 épisodes.
D'accord.
Voilà pour. Eh bien, d'ailleurs, j'ai envie de faire, puisque tu parlais d'Alabama, puisque c'est le rôle.
Non, tu... Je me suis demandé s'il y avait un lien, en fait.
Eh ben, on va le faire, le lien, puisque.
Parce qu'il y a quand même des points de similitude.
Oui, alors il pourrait y avoir un clin d'œil. Je ne connais pas vraiment le dessous de cette histoire-là. Mais effectivement, on peut faire un lien avec Alabama Monroe, si tu me permets de faire ce grand écart. Puisqu'on est en 91, on passe 20 ans plus tard en 2012, 21 ans, et on est dans un film. Alors Alabama Monroe, c'est un film belgo-néerlandais, je ne sais pas si ça se dit ça, qui est un film réalisé par Felix van Groningen, à qui on doit aussi des petites perles, hein, comme La Merditude des choses, je crois. Et puis tu me dis si je me trompe, hein. Et Et c'est un film qui a pour acteur, enfin pour deux acteurs principaux, moi que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup, qui sont Verley Bettens. Alors c'est des noms flamands. Alors je risque de peut-être
les écorcher
un peu. J'en suis désolé pour eux. Et Johan Eldenberg, qui est aussi à l'origine de la pièce de théâtre dont est tiré le film. Ils ont remporté pour ce film-là un César, hein, alors César en France, hein, du meilleur film étranger, mais ils ont été aussi nommés aux Oscars du cinéma aux États-Unis en 2014 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. C'est un film qu'on a vu ensemble, rappelle-toi, on était ensemble dans la même salle. D'ailleurs, on était assis l'un à côté de l'autre, curieusement. Ou pas très loin l'un de l'autre, je ne sais plus. Moi, je crois qu'on était voisins. C'est un film qui est très compliqué à résumer parce que c'est un film. Alors moi, je me souviens très très bien de l'effet de ces films-là. J'avais vu la bande-annonce qui ne dit rien du film, en tout cas qui laisse présager d'être un film sentimental en fait, et qui est un vrai drame passionnel, hein, qui a plusieurs niveaux de lecture. On va essayer de le résumer de manière un petit peu simple, hein. On est en Belgique, à Gant.
D'ailleurs, il faut du temps pour se rendre compte qu'on est en Belgique. Au début, croire qu'on est dans un autre pays que la Belgique.
C'est vrai.
La voiture, parce que ça ne parle pas. Voilà.
Donc Didier, qui est le personnage masculin principal du film, est effectivement quelqu'un qui a une vraie passion pour le mode de vie américain, mais c'est un mode de vie comme on peut trouver beaucoup en France notamment. C'est un peu, c'était un peu dans le ton à la Johnny, quoi. C'est-à-dire que c'est une idée de ce qu'on peut se faire du mode de vie américain, tu vois. C'est la voiture américaine, la musique bluegrass, les t-shirts avec des loups dessus, et puis des attrape-rêves à côté, sur un fond un peu de nuit étoilée. Et donc, ce type-là vit dans son mobilhome, mais il a une vraie passion, effectivement, pour le bluegrass. Hein. D'ailleurs, il a un groupe de musique dans lequel il est à la fois chanteur et joueur de banjo. Et il va croiser le chemin de Élise, qui tient un salon de tatouage, et qui, elle, se fait un tatouage différent à chaque histoire amoureuse. Autant dire qu'elle est couverte de tatouages. Et on a deux écorchés, là, un petit peu, qui se croisent et qui vont vivre une passion amoureuse, au départ, assez extraordinaire, qui va les consumer complètement jusqu'à la naissance d'un enfant, d'une petite fille, Élise, alors, ça m'embête de spoiler un peu ce film-là, mais il a 20 ans en même temps, qui va tomber malade, gravement malade.
Oui, c'est à partir de là que ça va...
Ouais. Au rythme, la maladie va pas seulement détruire l'enfant, mais détruire le couple.
Sachant que le film se déroule de façon non linéaire.
Oui, alors donc, il est non linéaire.
Il y a des un peu à la Tarantino. C'est pas vraiment des flashbacks. Hein, c'est le film est
beaucoup
monté
d'aller-retour.
Mais c'est pas des flashbacks. Hein.
Tout à fait. Ce qui est extraordinaire dans ce film, je crois qu'on s'était fait tous les deux la réflexion, c'est que le montage du film en lui-même participait à l'œuvre. C'est-à-dire que on pourrait presque dire que le montage du film est un héros dans le film à part entière.
Oui, et on n'est jamais perdu.
Alors, on n'est jamais perdu, mais il a cette capacité, ce montage, à faire monter la tension et il nous embarque dans une espèce de spirale. Enfin, moi, ça m'avait fait ça en me disant mais ça va mal se passer. Il va se passer un truc vraiment grave. Là, on nous emmène. On est pris dans une espèce de maelstrom là, qui va nous embarquer. On ne sait pas où, mais quand on va arriver dans l'œil du cyclone, ça va faire mal. Moi, je me t'ai dit, mais c'est pas possible. J'aime pas les films, je lui ai dit, hein, les films à l'eau de rose, trop sentimentalistes. Celui-ci m'a complètement bluffé, au point que, quand même. Je me souviens avoir torpillé un paquet de Kleenex, quoi. Enfin, vraiment, il est très très touchant ce film, avec un petit bémol en ce qui me concerne, mais je crois que tu partages mon avis. C'est les 5 dernières minutes
oui.
que
oui.
j'ai pensé moi inutiles.
Moi, c'est pareil. Bon, parce qu'en en fait, il y a...
Enfin, inutile, et puis à côté du propos.
Il y a deux... La petite fille tombe malade et les parents ont deux façons différentes d'appréhender cette maladie.
Tout à fait.
Et au début du film, pas forcément, enfin, au début du film, le personnage d'Emily dit à Didier qu'il doit faire face de toute façon. Voilà. Donc elle est forte. Hein. Il faut qu'il fasse face, hein, parce que lui, il a tendance à s'effondrer devant sa fille, alors que voilà. Mais l'interprétation est vraiment extraordinaire dans ce film. Et plus tard dans le film, on comprend qu'ils ont deux façons de voir la vie. C'est que Didier, c'est la vie est ici maintenant, et Élise, pense qu'il y a une vie un peu, il peut y avoir des choses un peu plus mystiques. Voilà.
Tout à fait.
Sauf qu'à la fin,
la fille s'appelle Maïbel. S'appelle pas Élise, c'est la mère.
Et la petite aussi, elle est.
L'actrice qui joue l'enfant est extraordinaire.
Ce film est extraordinaire. Moi, je l'ai vu. Moi, c'est sur le conseil. Je serais passé à côté. C'est sur le conseil d'Unamique. Je l'ai vu. Et vraiment, ça m'a retourné aussi. Ouais.
Ouais, alors moi, je l'ai vu parce que quand j'ai vu la bande-annonce, en fait, je me suis dit, tiens, ça a l'air assez ça. Alors, vraiment, hein, j'y suis allé. Je me souviens avec Ambre, ma fille, j'y suis allé, mais alors sans savoir du tout ce que j'allais voir. J'ai trouvé le film plutôt sympa dans sa bande-annonce. La bande-annonce est sympa, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air chouette, un film belge qui parle de culture américaine. Allons voir ce que ça donne. J'ai vu et j'ai pris une grosse claque. Alors, c'est vrai, tu as raison. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont les personnages, chacun s'empare finalement de cette problématique, puisque Didier, lui, il va se tourner vers les créationnistes, les pro-vie, etc., au point parfois d'avoir des... D'ailleurs, ce qui va vraiment consumer finir le couple, c'est de prendre carrément la scène de la musique pour faire des pamphlets pro-vie, alors qu'elle, elle se tourne vers le spiritisme, la réincarnation, enfin voilà, ils partent chacun dans... Enfin, vous voyez, c'est des écorchés, et vraiment, moi, ça m'avait fait cet effet-là. C'est-à-dire, ils sont écorchés et ce drame va les mettre à vif. Vraiment.
Oui.
Enfin, va faire ressortir toutes les. Ah, on a des gens qui arrivent dans l'émission et qui parlent dans le micro.
Oui.
Salut, les gars. Ah, ben, ils ne parlent plus quand on leur dit bonjour. Ils sont timides, du coup. C'est du merde, on s'est fait toper. Et donc, voilà, pour revenir sur Alabama Monroe, moi, ça m'avait vraiment fait cet effet-là de voir toutes ces... Enfin, finalement, toutes les blessures revenir, saigner abondamment. Et nous, on les regarde, complètement...
Oui, avec l'évolution des personnages qui est marquée aussi par les... Notamment, ça, c'est un des points de repère par rapport au montage, la maison, les travaux dans la maison.
Tout à fait, la travaux dans la maison.
La maison qui se construit. Ça m'a vraiment retourné. Ouais. Surtout parce que ce sont deux personnages un peu des marginaux quand même. Mais on se retrouve un peu en chacun d'eux, quoi. Voilà.
Ouais, mais t'as raison, ce sont des marginaux. Ils sont pas, on peut pas dire qu'ils brillent d'intelligence. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens du commun, quoi. Ils ont pas ce côté du héros incarné qui peut faire face à tout, etc. Au contraire, on récupère des gens qui sont déjà bien, bien cassés quand même par la vie et qui, là, sont finis par un drame familial, quoi. Mm. Non, très, très bon film. Vraiment, moi, je me souviens que, pour moi, je me souviens très, très bien de ce que j'ai dit à l'époque quand j'ai vu le film, et je maintiens ce film. Pour moi, c'était le film de l'année 2012.
Oui, ouais, ouais. Et alors... Je ne suis pas spécialement fan de la VO, hein, mais ça, c'est un film à voir en VO. Voilà, parce que
Je ne crois pas qu'il soit disponible autrement qu'en VO, d'ailleurs.
Si, je l'ai vu en VF.
Ah, d'accord.
Je l'ai vu au cinéma en VO, et je l'ai revu après à la télévision en VF. Hein. Et c'est pas que la VF est mal faite, hein, c'est surtout qu'il y a une profondeur de son que dans la VO qu'il n'y a pas dans la VF. Voilà.
Mais comme dans beaucoup de films en VO, en fait.
Voilà.
Mais c'est vrai que... Après, moi, je partage ton avis là-dessus. Hein.
sur celui-là. Après, il y a d'autres films. Moi, honnêtement, il y a beaucoup de films sur lesquels je trouve que ça pas forcément, ça révolutionne pas le truc. Là, si. Même s'il est parti chanter, de mémoire, je crois que les acteurs ne chantent pas. Ils sont doublés pour les chants. Mais c'est pas grave, ça le fait bien. La musique est magnifique. Enfin, à part les 5 dernières minutes, comme tu disais, il y a rien à jeter dans ce film. C'est un film qui rend heureux d'être malheureux, en fait.
Oui, il y a ce côté mélancolique un petit peu.
Ouais. C'est voilà, et qui est, c'est un film effrayant aussi par beaucoup de côtés. Voilà. Et
Il est moins 10. Nos amis commencent à arriver. Est-ce qu'on a le temps de faire le dernier film, Fabrice ?
Ah, on peut faire le dernier film !
Allez !
Ah, coupure musicale !
Will the circle be unbroken by and by or by and by? There's a better home awaiting in the sky, or in the sky. I told thee, Undertaker, Undertaker, please drive slow, for this body you're holding, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by?
Childhood hymns of praise that made us strong, the ones that mother made us.
C'est un extrait d'Alabama Monroe. Merci Joël.
Merci Joël.
Le titre, c'était le titre effectivement phare du film. Et donc, est-ce qu'on a encore le temps ? Oui, il nous reste 7 minutes.
7 minutes, on peut le faire.
Allez, en 7 minutes.
On va parler d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film qui va fêter ses 17 ans. Voilà. Donc.
Ouais, ça fait mal, hein.
Ça fait mal, voilà. Un film de Michel Gondry, un film américain de Michel Gondry, réalisé par Michel Gondry, avec un casting assez sympa. Jim Carrey, Kate Winslet dans les rôles principaux. Et autrement, il y a Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, Tom Wilkinson. Voilà. Et donc, l'histoire d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est que comment Joël et Clémentine ont une histoire d'amour tumultueuse et c'est fini. Et Joël décide d'effacer de sa mémoire toute. Parce que dans le film, il y a un procédé qui le permet. Toute trace de cette relation. Ouais, voilà. Et c'est surtout Clémentine qui décide de le faire et Joël le fait après. Voilà. Et en fait, plus les souvenirs s'en vont, et plus ils pensent à eux, et plus ils se rendent compte que bah, finalement, même si c'est voué à l'échec, leur relation, bah, c'était quand même pas mal. Voilà. Et donc, c'est réalisé par Michel Gondry. C'est très poétique. J'ai trouvé ce film très poétique. Et en plus, comme Michel Gondry sait le faire, c'est qu'il y a des effets spéciaux qui sont assez bluffants. Notamment la maison qui s'efface dans le sable. Mmh. Et voilà, quoi, c'est, c'est vraiment... Moi, je ne suis pas non plus comme toi, je ne suis pas spécialement fan des films d'amour. Mais là, ça a matché. Enfin, ça, j'aime pas ça. En plus, j'aime pas ce mot. Ça a fonctionné. Il y a le casting qui est très bien avec Kate Winslet et Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un acteur, même les deux, hein, sont des acteurs comme extraordinaires. Et Jim Carrey porte une vraiment une tristesse qui est très touchante dans ce film, quoi. Voilà.
Oui, Jim Carrey, quand il cabotine pas, il peut être très très touchant, ça c'est vrai.
Un peu comme dans le Truman Show d'ailleurs. C'est un peu pareil. Dans le Truman Show, il cabotine un peu plus.
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, je disais que tous les personnages de ce film sont attachants. Parce que histoire, c'est. Voilà.
Mais Michel Gondry a une caméra très attachante. Alors, tu fais bien de préciser film américain, parce que Michel Gondry, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur français.
Oui.
Qui a tourné aux États-Unis, effectivement, quelques bons films, hein, parce que moi, j'aime beaucoup ces films. Il avait fait Soyez sympa, rembobiné aussi, avec Jack Black. Il avait fait The Green Hornet, Le Frelon Vert.
Oui. Qui est pas si mal, quand même.
Ah, qui est bien. Et puis, ouais. Il avait fait un film, moi, que j'aime beaucoup, L'écume des jours. Voilà, avec Audrey Tautou et puis
Romain Duris. Hein.
Voilà, il va au Marcy aussi, etc. Mais le film est quand même pas facile. Enfin, c'est pas facile. C'est un roman de Boris Vian qu'on aurait pu mettre d'ailleurs dans la sélection du. Enfin, le film aurait pu le mettre dans la sélection là aujourd'hui. Et je trouve que Gondry s'en est très très bien tiré dans cette adaptation là. Il y a un petit côté, moi j'aime bien quand il y a ce côté-là un petit peu à la Jean-Pierre Jeunet où les décors, etc., participent complètement au film, c'est-à-dire peuvent vraiment traduire les émotions des personnages, et c'est ce qu'on trouve dans ce film.
Comme dans Soyez sympa, rembobiné aussi.
Oui, complètement.
La VHS. Oui, d'ailleurs le terme suédé est un petit peu rentré dans le langage courant. C'est refaire un film avec trois francs six sous. Parce que Soyez sympa, rembobiné, Jack Black, après avoir... donc je crois que c'est pissé sur une station électrique, se retrouve électrocuté, se retrouve magnétisé, et quand il passe à côté des cassettes vidéo...
Il est démagnétisé.
Il est démagnétisé, et donc tous les films sont effacés, donc ils refont tous les films avec une créativité...
plus ou moins réussi, on va dire.
Ouais. Notamment, moi, j'aime bien Robocop.
Oui. Enfin, le Roi Lion était pas mal aussi. Mais oui. C'est un film d'amour aussi, hein, d'une certaine manière, pour le film dans son format VHS. Hein.
C'est ça. Et donc, ouais, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est un peu ça aussi. Avec Gondry, c'est gentil, mais c'est pas méprisant quand je dis comme ça. C'est vraiment... C'est des films qui ils réalisent des films qui font du bien souvent, qui font vraiment du bien. Voilà. Donc voilà.
On va peut-être bientôt pouvoir donner la parole à nos amis ou pas. Ils nous ont pourri l'émission. Alors peut-être qu'on va aussi pourrir la leur.
Oui.
Bien involontairement, messieurs. Hein. Attention.
Ouais. C'est ce qu'on.
On n'avait pas vu que c'était activé.
En tout cas, bienvenue à vous. Vous allez prendre la relève.
Merci. J'espère que ton acolyte a vu mon petit panneau.
Ah non.
Je vais te le remontrer parce que c'est important. C'est important pour Sport Épique quand on a le cousin de Kerbrat quand même sur l'autre radio. Putain, si j'arrive pas à l'avoir, c'est un truc de fou.
Ah, ça dépend, c'est moi le cousin de Kerbrat, ça dépend comment tu te situes. Mais
Non, lui c'est ton cousin, c'est toi le personnage principal, t'es quand même à l'autre radio. Donc,
Ouais, c'est vrai.
Et alors vous avez parlé de quoi, de sport d'amour?
Ouais, non, on va s'en préserver un petit peu quand même de ça.
D'accord, donc amour du sport alors.
Très bien, on inverse la problématique.
Parce que l'actualité sportive est... Et assez riche quand même.
Extrêmement nourri avec ce Covid, ouais. C'est formidable pour nous.
Ouais, les stades sont pleins.
Ouais. Mais c'est pas très grave, on est plutôt sur des sujets de société. C'est ce qu'est le cinéma, les gars. Hein,
ah donc vous allez parler de Marseille alors.
C'est très intellectuel.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le lien effectivement entre la manière dont les stades se remplissent et la manière dont nous observons les salles de cinéma remplies également. Oui. C'est à peu près le même taux d'occupation là. C'est assez rare, mais.
Ça doit être à peu près la même. Nous, on a des jauges de combien là ? Vous avez même. Vous, c'est zéro ?
C'est zéro.
Ah oui, nous, on s'en va pas avec les jauges, nous.
Non, c'est zéro.
Nous, on a droit aux entraîneurs et aux remplaçants quand même sur les bancs de touche.
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal quand même.
Le vivre ensemble qui est mis en. Le vivre ensemble est mis à mal.
Oui.
Ah ouais.
Il y a des phrases comme ça dans Sport Épique.
D'accord, ouais, on voit.
Bon. L'autre fois, j'ai du mal à m'habituer quand même parce qu'on regardait les championnats du monde de hand et puis c'est dingue, les tribunes sont vides. Mon épouse a cru que je rigolais, mais j'avais oublié qu'il y avait une période particulière.
C'est dit au mois de décembre, il y avait du monde dans les stades en Angleterre.
Ah, moi, j'ai regardé le Super Bowl, c'était plein. Hein. On ne doit pas regarder les mêmes chaînes.
La rediff de 2017, c'était pas mal, ouais.
Bon, en tout cas, merci à vous de prendre la relève.
Oui.
Et nous, on se retrouve dans un mois.
Oui. On fera une spéciale bière, peut-être.
Vous continuez à pourrir notre horaire, c'est parfait.
On continuera à pourrir votre horaire, il n'y a pas de problème.
Pourrir votre émission.
D'ailleurs, on pourrait faire une thématique sur les films de sport.
Oui. Oui. On a déjà fait un petit peu ça, oui. Ouais. Mais tu as raison.
Et comme ça, qu'est-ce qui devient le film de sport comme ça, tac, sans réfléchir.
Le premier film, c'est Goal of the Dead.
C'est l'enfer du dimanche.
Un film avec des zombies et du foot.
Ouais.
Je suis comme toi, c'est l'enfer du dimanche.
Il y a au Shaolin Soccer aussi que j'aime bien.
Tiens, Mazouzi ici.
Ah oui, c'est bien ça, Shaolin Soccer.
Shaolin Soccer, je valide.
On avait des coups de tête. Goal of the Dead.
Ou Rassemble.
Bon, respectez un peu, il y a mon invité qui arrive.
Bon,
merci à vous alors. On se casse.
Non, mais regardez, profitez un peu les deux gars du cinéma là, profitez là, vous avez la star bretonne la plus énorme depuis les 20 dernières années. Là. C'est un monument le mec.
C'est Nolwenn Leroy.
Bien, en tout cas, voilà. Nous, on se retrouve dans un mois. Joël, merci pour la programmation.
Merci Joël.
À bientôt.
À bientôt, ouais.
Salut les gars.
Salut.
Salut.